Laudetur Jesus Christus.
L'épidémie de coronavirus aux États-Unis a fait plus de 4000 morts, un chiffre multiplié par deux en trois jours. À New York, de nombreux hôpitaux sont saturés. Le président américain Donald Trump a prévenu, la crise sera très douloureuse. Elle pourrait faire jusqu'à 200 000 morts. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a obtenu hier le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée au motif de lutter contre le Covid-19. L'opposition s'insurge et Bruxelles appelle à la mesure. Au sommaire également, cette décision prise par la Turquie de libérer des prisonniers dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. 90 000 détenus vont bénéficier de cette mesure. Éclairage dans quelques instants. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur une question cruciale. Le manque d'eau et de savon dans de nombreux pays rempart contre le Covid-19. 40% de la population mondiale ne dispose pas d'installations permettant de se laver les mains à domicile. Témoignage d'une porte-parole de l'UNICEF.
Radio Vatican, le journal Hélène Détombe.
Bonjour, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 4000 morts aux États-Unis, 865 pour la seule journée d'hier. À New York, épicentre de la pandémie, les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de malades. Le président américain Donald Trump, qui dans un premier temps minimisait la crise sanitaire, a indiqué hier que son pays allait faire face à deux semaines très douloureuses. La Maison-Blanche a estimé que la maladie ferait entre 100 000 et 240 000 morts sur le sol américain.
C'est à New York que l'épidémie fait le plus rage. La métropole vitrine des États-Unis est métamorphosée. Des tentes se dressent à Central Park, devant les hôpitaux, dans les hôtels. Le centre de conférence de Manhattan est converti en hôpital et le même sort attend les centres sportifs de la ville. L'État de New York a bien engagé une course contre la montre pour augmenter sa capacité hospitalière avant le pic, attendu d'ici une à trois semaines. Le gouverneur appelle même les New-Yorkais à calibrer leurs attentes pour ne pas être déçus chaque jour au réveil. Une gravité que l'on retrouve dans les propos du président Trump, qui a radicalement changé de ton face à la pandémie. Deux semaines très très douloureuses attendent les Américains, a-t-il prévenu. Trois quarts d'entre eux sont déjà confinés et selon les projections de la Maison Blanche, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis, même avec les mesures actuelles de confinement. Pour l'heure, le bilan des victimes a déjà dépassé celui de la Chine et le pays est l'épicentre mondial du virus. Avec un système de santé inégalitaire et 3 millions de personnes en plus inscrites au chômage en une semaine, tous redoutent également une bombe sociale.
Delphine Allaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié hier la pandémie de crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, craignant une profonde récession et l'apparition de nouveaux conflits dans le monde. Il avait exhorté la semaine dernière à un cessez-le-feu global et immédiat, un appel soutenu dimanche dernier par le pape François qui semble avoir de premiers effets. L'ELN, la seule guérilla encore officiellement active en Colombie, a annoncé un cessez-le-feu pour le mois d'avril. Les évêques du pays y voient un espoir de relance du dialogue politique dans le pays. Le président brésilien Jair Bolsonaro prend finalement la mesure de la crise sanitaire. Il avait dans un premier temps qualifié l'épidémie de Covid-19 de petite grippe. Désormais, il évoque le plus grand défi posé à sa génération. Le chef d'État brésilien a insisté hier sur la nécessité de sauver des vies, mais aussi les emplois. La pandémie a fait plus de 200 morts dans le pays. Les autorités ont prévenu que le pic ne serait pas atteint avant fin avril. En Hongrie, la loi d'urgence qui vient d'être votée au Parlement pour lutter contre le coronavirus fait débat. Elle accorde au Premier ministre Viktor Orban des pouvoirs étendus, lui permettant de légiférer par ordonnance. Des quasi pleins pouvoirs qui ont été très critiqués par l'opposition, par les ONG et par l'Union européenne. Les précisions de Pierre Benazé.
La loi hongroise sur l'état d'urgence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et c'est sous cet angle d'attaque que la présidente de la Commission européenne a choisi de formuler ses critiques. Les mesures de lutte contre la pandémie doivent être strictement proportionnelles à la situation et limitées à ce qui est nécessaire, selon Ursula von der Leyen. Et cette circonvolution ne trompe personne. Sous couvert de coronavirus, c'est bien à la Hongrie que la Commission s'en prend à nouveau. Les mesures de lutte contre la pandémie ne doivent pas contrevenir aux valeurs fondamentales de l'Union européenne, affirme Ursula von der Leyen, et la démocratie ne peut fonctionner sans médias libres et indépendants. Les services juridiques de la Commission sont en train d'analyser la loi Magyar, tandis que son application en Hongrie est, je cite, étroitement surveillée. Ursula von der Leyen n'a pas choisi de s'en prendre frontalement à Viktor Orban, mais ses propos à mots presque couverts sont dans la ligne droite des vives critiques émises par la Commission depuis maintenant 5 ans sur des sujets aussi variés que l'état de droit, les procédures d'asile, les lois universitaires ou l'accueil des réfugiés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
La France a enregistré hier de nouveaux chiffres alarmants, 499 décès supplémentaires dans les hôpitaux français, un record. Au total, plus de 3500 personnes sont mortes sur l'ensemble du territoire des suites du Covid-19. Et alors que la polémique enfle face à la pénurie d'équipements médicaux, le président français Emmanuel Macron, en visite hier dans une usine de masques, a promis la production par semaine de plus de 10 millions de masques et la fabrication d'ici à la mi-mai de 10 000 respirateurs afin d'équiper les hôpitaux. Les masques, en Autriche, ils vont être distribués à l'entrée des supermarchés à partir d'aujourd'hui. Leur port sera obligatoire pour faire ses courses. Le pays renforce ainsi les mesures de protection face à la propagation du coronavirus, mesures rendues nécessaires par une crise qui s'annonce longue, a prévenu le chancelier conservateur Sébastien Kurz. À Vienne, Isorias.
Les Autrichiens qui vont faire leurs courses, l'une des rares sorties autorisées, vont à compter de ce mercredi se voir distribuer des masques à l'entrée. Ils devront les porter dans les supermarchés désormais. Ces masques chirurgicaux permettent de ne pas contaminer les autres, a expliqué le chancelier Sébastien Kurz.
Ce serait une erreur de penser que de tels masques protègent le porteur, mais ils permettent de rendre la transmission par l'air moins aisée. Cela ne fait pas partie de notre culture et ce sera un grand changement, mais il est nécessaire de faire ce pas pour réduire encore davantage la propagation.
Le gouvernement aimerait à l'avenir étendre l'obligation de porter un masque à d'autres situations où les personnes sont en contact, dans les transports en commun par exemple, un renforcement nécessaire des mesures de protection, car cette crise va être longue et difficile, avertit Sébastien Kurz.
C'est un marathon. Notre devoir est d'être honnête avec vous. Beaucoup ne peuvent imaginer ce qui va arriver dans quelques semaines, mais en vérité, c'est le calme avant la tempête. Et on voit à quel point cette tempête peut être atroce quand on regarde chez notre voisin italien.
Les mesures de confinement sont pour le moment prévues jusqu'au 13 avril en Autriche, mais pourraient être prolongées. Vianne Isorias pour Radio Vatican.
La Turquie n'est pas épargnée par l'épidémie. Le pays, qui enregistrait hier 214 morts, vide en partie ses prisons. Un tiers des détenus turcs devraient bientôt bénéficier d'une libération en vertu d'une proposition de loi dévoilée ce mardi par le parti au pouvoir. Le texte devrait être adopté au Parlement le 7 avril prochain. À Istanbul, les précisions d'Anand Lower.
Au total, ce sont 90 000 détenus, soit plus du tiers de la population carcérale turque, qui vont bénéficier de ces mesures proposées conjointement par le parti au pouvoir, l'AKP, et son allié ultranationaliste, le MHP. L'adoption du texte ne fait aucun doute, ces deux partis disposent de la majorité absolue des sièges au Parlement. Concrètement, les libérations vont prendre deux formes. Les détenus de plus de 65 ans, certains malades et les mères d'enfants de moins de 6 ans vont pouvoir purger leur peine à domicile, une assignation à résidence directement justifiée par l'épidémie de nouveau coronavirus. Selon le parti au pouvoir, qui assure qu'aucun malade du Covid-19 n'a encore été dépisté en prison, cela concerne 45 000 prisonniers. Par ailleurs, 45 000 autres détenus qui ont déjà purgé la moitié de leur peine vont bénéficier d'une libération anticipée. Sont exclues de toutes ces mesures les personnes condamnées pour homicide volontaire, crimes sexuels, trafic de drogue, violence contre les femmes et terrorisme. Autrement dit, les journalistes et les opposants emprisonnés notamment pour propagande terroriste, de même que les dizaines de milliers de personnes incarcérées pour leur lien présumé avec la tentative de putsch de juillet 2016, ne pourront pas être libérés. À Istanbul, Indoir pour Radio Vatican.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump insistent sur l'importance pour les pays en conflit, en particulier la Syrie et la Libye, d'adhérer à un cessez-le-feu en cette période de crise sanitaire mondiale. Lors d'un échange téléphonique hier, les deux dirigeants se sont également mis d'accord pour ensemble soutenir l'économie mondiale. Et puis avant de passer à notre dossier, sachez que le pape François, lors de la messe ce matin à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, a invité tous ceux qui travaillent dans la communication à aider les personnes à supporter cette période d'isolement. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que le disciple de Jésus est un homme libre parce qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint et non par les idéologies. La contamination au Covid-19 peut être venir par voie respiratoire. Le virus peut également être contracté de manière indirecte si l'on pose sa main sur une zone infectée et que l'on se touche par la suite le visage, la bouche, le nez ou les yeux. Pour couper cette route de transmission, il suffit de se laver consciencieusement les mains. Un geste simple qui peut sauver des vies. Mais que faire lorsque manque le savon et surtout l'accès à l'eau? Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF publié l'an dernier, 40% de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes, ne disposent pas d'installations leur permettant de se laver les mains à domicile. Dans les pays les moins développés, cette réalité touche 75% de la population. Des écoles ou des hôpitaux sont également nombreux à ne pas disposer de salle d'eau. Avec la pandémie, les carences se transforment en urgence. C'est ce qu'explique Kelly Ann-Naylor, la directrice adjointe du département en charge de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à l'UNICEF.
Ce n'est pas forcément qu'il faut avoir l'eau qui arrive dans un tuyau avec un robinet. On peut aussi mettre en place un seau avec un trou et on bouche le trou. Ce qui est important, c'est que nous avons de l'eau qui coule et qu'il y a suffisamment de l'eau pour pouvoir frotter les mains avec du savon et pour après enlever ce savon. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas réutiliser l'eau qui est déjà utilisé, donc on ne conseille pas du tout que les gens lavent les mains dans les bassins, mais il faut absolument laver les mains en-dessus de l'eau qui coule.
Et quand on n'a pas beaucoup d'eau, est-ce qu'on peut faire bouillir l'eau dans laquelle on s'est lavé les mains pour se relaver les mains dedans?
Ce qu'on conseille, c'est qu'il faut avoir un minimum de l'eau. La quantité minimum est 0,5 ou 2 litres par lavage des mains. Si on n'a pas beaucoup d'eau, ce qu'on conseille, c'est de vraiment prioriser quand on va laver les mains. Et donc, les moments critiques, c'est après d'avoir toussé ou éternué et qu'on va jeter un papier mouchoir utilisé. Aussi, chaque fois qu'on va entrer ou sortir d'un passe public ou un groupement des gens, et aussi, il faut le faire avant de préparer la nourriture, de donner le sang au bébé, avant et après d'utiliser la toilette ou de changer la couche d'un enfant. Quand on est en train de déplacer, on peut aussi utiliser les crèmes de purification. Ça peut aussi marcher. Et il y a une recette qui a été préparée par l'OMS qui est sur leur site web si vous voulez le préparer chez vous.
Mais est-ce que l'eau potable ou propre est nécessaire?
Vis-à-vis la qualité de l'eau, ce n'est pas nécessaire que l'eau est forcément potable, mais il faut absolument que ce n'est pas quelque chose qui est contaminé par les pathogènes, parce que ça peut être une autre source de contamination de nouveau.
Est-ce que vous avez l'exemple d'un comportement vertueux au niveau d'une collectivité, d'un village, qui puisse servir de modèle à des personnes qui ne savent pas comment s'organiser avec de l'eau qui est rationnée?
Pendant l'épidémie de Ebola, j'avais travaillé en Libéria. Et ce que j'avais constaté, c'était qu'il y avait une prise de conscience totale. Et donc, même s'il n'y avait pas beaucoup de l'eau, les gens avaient vraiment priorisé le lavage des mains dans les endroits principaux. Et même, je me rappelle, il y avait les gens qui vendent de nourriture sur les routes. Chacun avait son bidon avec un robinet. Et quand il y avait un client qui est arrivé, il était censé, avant d'entrer dans la petite boutique, de laver les mains. Quand on entre dans la mairie ou dans notre place publique, il y avait toujours un des lavages des mains et il y avait au début les gens qui contrôlent, mais après un moment, c'est devenu vraiment un réflexe.
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut un changement collectif des comportements.
Je pense qu'une des choses qui est très importante avec les questions de lavement, comme c'est une habitude personnelle, c'est aussi une norme sociale. Et donc, quand on est en train de promouvoir ces types de programmes, c'est vraiment d'essayer de changer les comportements personnels et aussi de s'assurer que ça devient une action collective.
Interrogée par Marie Duhamel, Kelly Ann Naylor était ce matin l'invitée du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous à 13h. Prenez soin de vous. Au revoir.